Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Le Book Club de Beurre FM, c'est l'émission qui parle des livres avec ceux qui les écrivent à ceux qui les lisent. Bonjour, bienvenue, bon dimanche, nous sommes en direct et mon invité s'appelle Marco Mouly. Bonjour et bienvenue Marco.
Bonjour, comment vas-tu? Tu vas bien?
Ça va bien, ça
ouais.
va bien. Alors Marco, comment est-ce que je peux vous présenter? Qu'est-ce qui vous va?
Un homme d'affaires.
Affairiste?
Ouais, affairiste. Ouais, on peut dire ça comme ça, avec un peu plus de turbulence, quoi.
Commercial?
Ouais. Je pense que dans ma génération et tout ce que je fais en ce moment, c'est vraiment du commerce, quoi. Faire de l'oseille, du trading, avancer. Parce que si toi-même t'avances pas, qui va te faire avancer?
Escroc, non.
Escroc, c'est un grand mot, tu sais, un escroc, c'est un vrai grand mot. Un escroc, il fait un chèque impayé, c'est un escroc. Il essaye d'embrouiller pour un kilo de pommes, c'est un escroc. Je m'appelle pas un escroc quand il y a des sommes comme ça. Je pense plus que c'est du boulot, c'est de l'imagination, c'est de créer les banques, les écritures, enfin même je sais pas écrire. Enfin, c'est tout un staff, quoi.
Vous savez pas écrire ou c'est une légende?
Non, je ne sais vraiment pas écrire, non.
Ni lire,
vraiment.
Ni écrire?
Non, je pense que c'est ça qui me fait avancer. Et puis si je savais lire et écrire, je te le promets que j'aurais été dans la politique parce que j'adore ça.
Mais vous savez compter?
Oui. Très bien.
C'est la base. Bon, vous êtes là pour nous parler du livre que vous publiez, qui s'appelle La Cavale, aux éditions HarperCollins. Vous expliquez que finalement, et moi j'ai essayé de me mettre dans la tête de quelqu'un, et surtout dans la vôtre, quand vous décidez d'adopter, alors aujourd'hui on dit le mindset du gars qui va cavaler, vous avez choisi d'être un cavaleur mais qui se cache pas.
Bah, quel est l'intérêt d'aller se cacher pour aller en cavale, pour après aller en prison? Autant aller en prison directement. Y a plus de vie. Moi, j'ai été en cavale, non pas pour aller en cavale, déjà pour prendre du recul, pour m'amuser un petit peu et pour dépenser un peu d'argent. Bah oui, à quoi ça sert l'argent quand vous êtes enfermé?
Mais est-ce que la cavale, c'est possible sans argent?
Impossible. Impossible, impossible, vraiment impossible. On ne peut pas faire une cavale sans argent. D'abord, c'est pas une cavale à part d'aller dans une cave et de rester enfermé sans dépenser, manger du pain, de l'huile, des olives. Non, c'est impossible. Sans argent, c'est impossible.
Marco, qui nous dit que c'est la vérité dans votre livre?
Eh ben, l'avantage, c'est qu'il y a des dépositions de la police, il y a des dépositions du juge. Ils ont retracé pendant 5 ans l'argent. Ils m'ont retracé dans tous les pays où j'ai été. Et on m'a plutôt condamné là-dessus en appel que plutôt condamné sur ma peine parce que j'étais associé avec une personne qui s'appelle Klapouki, qui était le trader. Associé, on gagnait de l'argent ensemble. Lui, il a été acquitté et moi, j'ai confirmé les 8 ans. Donc, il y a un truc qui ne l'allait pas. Et quand la présidente m'a dit, mais je lui ai dit, c'est pas possible que vous pouvez me garder 8 ans. Elle m'a dit, monsieur Mouly, vous êtes vraiment foutu de notre gueule. Voilà. Donc c'est à cause de ça. Et puis, les écrits restent et les paroles s'en vont.
Mais quand je parle de la vérité, c'est tout ce qu'il y a autour, finalement.
Mais tout ce qu'il y a.
Vous êtes un grand bluffeur.
Bluffeur, non. Hein, vous savez, les belles histoires se racontent. Vous savez, vous n'allez pas dire à quelqu'un, vous n'allez pas vous retrouver devant un douanier et lui dire, j'ai pas de passeport, est-ce que je peux passer, je suis recherché par la police, par Interpol. Donc il faut raconter des histoires, il faut imaginer des histoires. Et c'est pour ça que la cavale que j'ai faite, elle est tellement belle. Moi, normalement, j'avais pas l'intention de l'écrire. C'est que les gens sont devenus fous. Et ceux-là qui m'ont suivi aussi, qui sont devenus fous. Parce que je suis passé sur des choses que même moi, je sais même pas comment j'ai fait. Même moi, je sais même pas comment je suis passé. Je sais même pas, vous savez.
Quoi, par exemple?
Par exemple, quand j'étais à Genève, quand je vais me faire arrêter, la police savait que j'étais là. Donc j'ai remonté tout le système et j'ai été balancé par un pays. Balancé par un pays et je me suis dit, putain, je vois que je fais du mal à beaucoup de gens à ce niveau-là. Donc moi, avant, pour moi, dans ma tête, j'étais une personne lambda. C'est après que j'ai vu que j'étais pas une personne lambda. Vous savez, quand il y a des gens qui font des cavales, ils restent à Paris.
Mais ça vous plaisait de pas être une personne lambda?
Ouais, après, ouais. Ça plaît. Attends, on sort d'où?
Vous n'êtes pas du genre qui n'aimait pas se faire remarquer?
Ouais, bon.
On sent que ça vous a un peu déçu de pas être l'ennemi public numéro un. Bon, bon, vous...
Non, ennemi public numéro un, ça veut, c'est un grand mot. Ça veut dire, il y a, c'est quelqu'un, moi je suis pas l'ennemi public numéro un. L'avantage qu'il y a, c'est qu'aujourd'hui j'ai appris beaucoup de choses. Je ne savais pas que tout ce que je faisais était, comme les gens m'ont dit, attention, c'est pas moi qui le dis, était magnifique. J'arrive pas à comprendre. On me dit, je suis un Robin des Bois, on me dit ci, on me dit ça. Donc aujourd'hui, les gens veulent se révolter. Comment ils peuvent se révolter? Comment? Donc ça sert à rien de descendre dans la rue et de crier, j'ai faim. La seule différence...
Ah, il faut voter Mélenchon.
Quoi? Quoi? Il faut voter Mélenchon?
Bah, vous si savez... tu veux te révolter, faut voter Mélenchon.
Vous savez, moi, j'adore le peuple, j'adore les gens, j'adore aider les gens, les pauvres, surtout les aider. Mélenchon, il a un problème. Il sait dire, je t'aime, mais il donne pas de preuve d'amour. Mélenchon, il sait dire les pauvres, mais lui, il est riche. Mélenchon crée une société, un parti où il va bientôt déposer. Mélenchon, il est mis en examen. Mélenchon, les conneries qu'il fait, il essaie de détourner la situation et la conversation. L'avantage qu'il y a, c'est que moi, je raconte pas de bluff. Moi, quand je parle pour de vrai. Et c'est pour ça que je vais aider les gens qui ont besoin.
Alors, vous expliquez dans votre livre que vous parlez et vous réfléchissez après.
Ouais, c'est vrai. C'est vrai, je réfléchis après parce que quand on réfléchit, on fait pas la chose. Parce qu'on sait que c'est mal, on sait que c'est pas bien. Donc, alors, autant ne pas réfléchir, avancer. Puis après, c'est comme l'intelligent et le malin. Si on est intelligent, on va jamais le faire. Mais si on est malin, on sait qu'on va retomber sur nos pattes. Et on le fait.
Vous avez grandi à Belleville.
Ouais.
Avant la gentrification, comme on dit aujourd'hui, c'était comment le Belleville où vous avez grandi?
C'était la plus belle chose du monde. C'est comme si aujourd'hui vous allez au Maroc, vous allez à Tunis, vous allez dans tous les pays orientaux. C'est de l'amour à Belleville. On est là, on essaie tous de se défendre. Il y a que des mecs comme moi. D'abord des gens comme moi. Vous savez, quand on arrive d'émigrer de Tunis dans un bateau à Marseille avec une valise où il y a rien dedans. Où il y a vraiment rien dedans, il faut se faire. Donc je me suis défendu avec.
Vous avez quel âge quand vous arrivez à Paris?
8 ans. Huit ans. Mais vous savez, 8 ans, on est marqué par le pays où on était. On est marqué par Tunis. On est marqué par le soleil. On est marqué par ce qu'on mange. On est marqué par les prix. Ça veut dire quand vous arrivez en France, les prix ne sont pas les mêmes à Tunis. Donc on est déphasé. On est déphasé par le pays où on va. Mes parents. On souffert au début, mes grands-parents ont vachement souffert. Bah mes grands-parents sont repartis à Tunis. Voilà, ça veut dire ils n'ont pas supporté, où ils ont émigré.
Votre père était boucher.
Mon père était boucher.
C'était,
ouais.
C'était le roi de la merguez.
C'était le roi de la viande et de la merguez, ouais.
Bon, je vous dis ça parce que
vous savez que la
vous
merguez...
avez une recette de pâte à la merguez. Bon, un peu cher.
Les merguez, vous savez, c'est comme une pâtisserie, c'est un poudine de la viande, c'est ce qui est le moins cher. On prend tous les restes de la viande, on le mélange, on lâche, on met des épices, et puis après ça fait une entrecôte. Quoi. La merguez, c'est comme une viande, quoi.
Ouais, l'entrecôte, il faut savoir la digérer, vous savez.
Ouais, ça c'est vrai. La merguez se digère pas trop mal.
C'est pas de la même chose.
Ouais, ouais.
Ça pique pas au même endroit. Ceux qui liront votre livre comprendront. Vous avez grandi donc à Belleville. Il y avait des papas qui jouaient aux cartes, qui jouaient au poker. Finalement, est-ce que le bluff, c'est au poker que vous l'apprenez?
Non, le bluff, vous l'apprenez dans la vie réelle. Ça veut dire qu'au poker, vous bluffez, mais tout le monde bluffe. Moi, quand je bluffe, j'aime bien que les gens bluffent pas. Ça veut dire que je vais être le seul pour bluffer, pour réussir ce que je fais. Au poker, tout le monde essaye de gagner sa vie. Tout le monde essaye de bluffer, de dire le réel. On sait pas. On ment. C'est pour ça que les gens mettent des lunettes et des capuches. Là, on est à visage découvert quand on bluffe. C'est pas la même chose.
Ouais.
C'est pas la même chose.
Mais qu'est-ce que vous avez compris sur la bonne stratégie pour bluffer au poker?
La bonne stratégie pour bluffer au poker, déjà, il faut y croire. Il faut croire à votre jeu et il faut croire que vous êtes gagnant. Même si vous avez un 2 et un 7, le plus pourri des jeux. Parce que si vous y croyez vraiment, la personne qui est en face de vous va croire. Et plus le mensonge est gros, et plus il est réel. Et c'est vrai.
Vous l'appliquez de temps en temps?
Je l'applique tous les jours.
Ouais.
Vous savez, tous les
plus
jours...
Plus c'est gros, plus ça passe.
Et vous savez, tous les jours, il faut avoir une stratégie. La vie, elle est tellement dure, tellement difficile à n'importe quel niveau... Pour tout le monde, hein, pas que pour moi. Vous savez, quand les gens vivent avec 2000 euros, les pauvres, qu'est-ce que vous voulez qu'ils fassent avec? comment voulez-vous qu'ils avancent?
Ouais, et encore, quand vous dites 2000 euros les pauvres, c'est pas tout le monde, hein.
C'est pas tout le monde, mais moi j'aurais été à la place des gens, vous savez. Je veux dire quelque chose aux gens qui nous écoutent. La vie, c'est quoi? En réalité, on vit qu'une vie. Dieu nous a donné un moment de notre vie, ça veut dire un passage. Moi, je pense que pour être riche, il faut faire des tonnes de crédits, il faut vivre au-dessus de ses moyens, et le jour où vous mourrez, vous leur faites un doigt d'honneur. Vous laissez une vraie dette.
Bon, ça marche, ça dépend après, hein. Si vous êtes croyant, pratiquant, ça
mais
marche
croyant
pas.
Croyant de quoi? On dit pas de voler, on dit pas de voler,
c'est. Faire des crédits, c'est.
Mais non, mais on dit pas de voler.
C'est haram.
Mais non, vous payez tant que vous pouvez payer. Mais le taux d'intérêt est cher. Vous gagnez 1500 euros, on vous prend 500 euros d'impôts. Mais qu'est-ce qui reste? Et à part les impôts, qu'est-ce qu'on fait? Quand on paye des impôts, quand ils font de l'argent l'État, ils aident les autres pays. Comment on fait? Comment on fait? On n'aide pas. Moi, je sais pas. Moi, demain, j'ai un fils. Je veux donner à mon fils avant de donner à mon neveu. Après, s'il m'aurait, je donne à mon neveu. Après, s'il irait, je donne à l'ami de mon neveu. Non, tout le monde est hypocrite. Pour moi, moi, je suis pas hypocrite. Moi, je dis ce que je pense parce que je sais pas faire autrement et je ne suis pas hypocrite. Moi, je vous dirais.
Mais sans filtre, en fait.
Non, sans filtre, ouais, et sans être hypocrite. Vous savez, on essaye de me briefer, les agents, enfin, tout le monde qui était avec moi, même là.
Ah ouais, qu'est-ce qu'ils vous ont dit de pas dire?
Ah là 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 là, ils me fatiguent. Ils me fatiguent tellement qu'ils sont durs. Dis pas ça parce que cette communauté va se vexer. Dis pas ça parce que ça va se vexer. À la fin, on peut rien dire. À la fin, il faut rester muet. Eh ben non, je dis ce que j'ai envie de dire et je vois la réalité des choses. Pourquoi moi j'avance et pas les autres? Pourquoi l'autre et pas moi?
Ils ont pas compris que vous rentriez pas dans les moules, vous.
Non, j'arrive pas d'abord. Il y a des choses que je comprends pas dans la réalité de la vie. Je ne comprends réellement pas. Moi, je comprends ma vie. Je ne comprends pas ce qui se passe dans la vie. Moi, je sais que si demain, ma famille n'a pas à manger, ben, je suis un homme, je vais descendre et puis je vais aller chercher à manger, de l'argent pour payer à manger. Je ne comprends pas. Dieu vous a fait homme, restez un homme. Hein?
Alors, vous grandissez dans un appartement à Belleville, vous racontez deux pièces à neuf. Votre père...
Non, un studio. Un studio. On était sept.
Tout augmente, hein. Faudra le dire à votre éditeur qu'il a mis neuf.
Non, mais quand je dis un studio, ça veut dire qu'il y avait une salle à manger et une chambre. C'est eux, ça, ils appellent deux chambres. Moi, j'appelle ça un studio. Moi, j'appelle ça une chambre pour dormir. Donc, on dormait, on était sept, on dormait dans la cuisine, on dormait par terre, on dormait, mon père et ma mère dormaient, bien entendu, dans leur chambre. Et voilà, quoi, c'était vraiment la plus belle chose du monde. Vous savez pourquoi? Parce qu'on était serrés, on était en famille, on sentait la famille, les frères et sœurs, on se disputait, celui-là qui voulait cette place, celui-là qui voulait ci, c'est ça la beauté de la famille. C'est pas quand on vit dans un 300 mètres carrés et on se voit jamais.
Votre père quitte votre mère avec une autre. Il avait une punchline, votre père, c'est « kiffe ta vie ».
Je le dis en arabe ou en français?
Comme vous voulez.
Parce
ça
qu'elle est plus
ça
belle, elle est plus belle en arabe qu'en français. Nique le dénia avant que dîne niquek. Ça veut dire nique ta vie avant que c'est la vie qui te nique. Et puis il avait raison. Vous savez, mon père, il n'était pas malade. Il avait toute la vie devant lui, des belles voitures, des beaux gosses, playboy. Il a été victime de son succès d'abord. Et ouais. Tu fais la grimace. Il a vraiment été.
Ouais, c'est la boucherie, ça. C'est le tablier,
ouais,
tout
bon,
ça.
C'est
ça,
un peu,
ça
c'est
aide.
Un peu ça.
Pour draguer.
Ouais. Mais bon, on a les moyens. Comment on peut faire pour être bien dans sa peau? Et mon père a tellement kiffé dans sa vie, et un jour il m'a attrapé, il m'a dit le jour où je meurs, ne viens pas pleurer, j'ai pas pleuré. Il m'a dit moi j'ai kiffé ma vie, mais il savait pas qu'il allait partir d'un coup. Et c'est ça le problème, c'est-à-dire vous vous levez le matin, tous les matins il faut dire merci mon Dieu pour la santé. Pensez pas à l'argent, pensez d'abord la santé, puis le reste se fait quoi qu'il arrive si vous avez envie de le faire. Si vous avez envie de le faire. De faire un pas en avant, c'est la plus belle chose du monde. Ne faites pas 10 pas en arrière. Ça sert à rien, vous faites jamais rien dans votre vie.
Alors à 13 ans, premier business, au sentier.
Ouais.
Vous achetez des t-shirts.
Ouais, c'est...
10 000.
Je peux dire la marque, c'était... je me rappelle plus de la marque.
Mais c'était une vraie marque?
Ouais, c'était une marque, ouais. Je voulais rentrer, je voulais acheter, les vendre dans la rue, parce qu'avant, bon, c'est vrai qu'avant, je faisais des choses que je ne veux pas qu'on fasse. Je volais pour vendre. Et là, j'ai décidé d'acheter pour vendre. C'était pas la même. Et puis raconter du bluff, quoi, raconter une histoire, parce que les gens, quand vous vendez dans la rue, vous leur dites c'est volé, ils sont tous vouloir acheter. Vous leur dites j'ai acheté, ils se disent attends, celui-là il a payé moins cher, donc je vois pas pourquoi je vais lui acheter à ce prix-là. Donc les gens, c'est dans le cerveau. C'est pas dans la rue, c'est tout est dans le cerveau. Il faut leur donner ce qu'ils ont envie d'entendre.
Ah, mais comment on vend 10 000 t-shirts dans la rue?
Facile. Facile. Vas-y. Ah, y a pas plus facile.
Vas-y.
Vous mettez, par exemple, je me rappelle ces t-shirts dans la rue, j'étais parti à Barbès, je me suis pris un stand moi-même, j'ai calculé les deux t-shirts combien ça valait, puis j'en ai offert un et j'ai dit les trois t-shirts pour le prix de deux. Voilà. Et puis tout est parti. Et puis tout ça, ça s'est avancé tout seul. Après, vous savez, de dire que je suis bon, je sais pas. Mais de dire qu'il y a Dieu derrière moi, ça, c'est sûr que je peux vous le dire, parce que les miracles qui me sont arrivés, je sais pas comment j'ai fait. Mais s'il n'y a pas Dieu, il n'y a personne.
Alors vous invoquez beaucoup Dieu dans votre livre,
ben oui.
Mais est-ce que vous l'invoquez quand ça va bien?
Non, même quand ça va mal dans la vie.
Non, mais quand ça va bien, est-ce que vous l'invoquez?
Bien sûr. Vous savez, Dieu, il ne faut pas y croire quand ça va mal. Au contraire. Quand ça va mal, il faut regarder Dieu et dire qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise pour que je sois dans cette situation. Alors, essaye de me donner un miracle. Et puis, comme ça, j'essaye de m'aider et d'aider les autres. Et comme ça, j'avance. Vous savez, moi, je vais vous raconter une petite histoire. Si je peux, c'était en prison.
Vous savez que vous êtes là pour ça.
Vous êtes gentil.
Donc, allez-y.
Donc, moi, vous savez, tellement je crois en Dieu, je demande à Dieu un miracle. À chaque fois, je demande à Dieu. Et puis, depuis 2019 jusqu'à 2021, je dois passer tous les ans en procès pour sortir en conditionnel. Puis un jour, alors 2019, 2020, je vais au procès, et puis c'est non, carrément non, monsieur Mouly, vous sortez pas. Bon, on arrive en 2021 et on me dit, monsieur Mouly, procès demain matin pour que vous êtes en conditionnel. J'ai dit, je n'y vais pas, c'est fatigant, toute la journée au dépôt, sans manger, sans cigarette, sans rien, ça fait flipper. Je dis, je veux rester dans ma cellule parce que je sais qu'il me reste 2 ans, donc j'y vais pas. À la fin, je dis, Dieu, donne-moi un miracle, donne-moi un signe, j'y vais. Eh ben, j'ai regardé dans la cellule, il n'y a pas de signe. Il y a zéro signe, donc j'ai dit, j'y vais pas. J'ai appuyé sur le surveillant à l'interphone, je lui dis, allô, surveillant, j'y vais pas et ne m'emmerde pas à 5 heures du matin demain, je viendrai pas. Donc, ok, tac, tac. Et là, c'est la première fois de ma vie que je dors du côté gauche. Et quand je dors du côté gauche, chez nous, chez les Juifs, le chiffre de Dieu, c'est 26. Il y a l'armoire, il y a le placard, et puis je compte les trous du placard. Et là, il y a marqué 26. Alors là, j'ai dit, j'y vais, j'appelle le surveillant. J'ai dit, c'est un signe de Dieu. J'appelle le surveillant, j'ai dit, surveillant, excuse-moi, j'avais pas compris tout à l'heure, donc j'y vais. Il m'a dit, non, t'as dit non, Mouly, je t'ai pas mis dans le camion. J'ai dit, je t'en supplie, j'y vais. Il m'a dit, ok, je te mets. J'y étais, j'ai attaqué le procureur, j'ai attaqué le juge, et je lui ai dit, madame la juge, ça sert à rien que je vienne. C'est pas vous qui commandez, c'est le procureur. À chaque fois, le procureur, il dit non. Elle s'est levée, elle dit, monsieur Mouly, c'est moi qui commande et je vous fais sortir demain.
Bien, et vous êtes notre invité jusqu'à 13h.
C'est gentil. Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, après une série documentaire sur Netflix et avant une fiction, eh bien Marco Mouly est là ce matin pour parler de son premier livre, s'appelle La Cavale chez HarperCollins. Vous dites que vous vivez votre vie comme dans un film.
Oui.
C'est quoi le film qui vous inspire? C'est Scarface?
Attrape-moi si tu peux. C'est le film le plus important.
Avec Leonardo DiCaprio.
J'adore.
Catch me if you can.
J'ai voulu essayer de le faire et puis bon, je pense que j'ai un peu réussi.
Ça, c'était votre idée de la cavale quand
c'était
quand,
mon idée voilà. De la cavale au début et puis j'avais pris un média qui devait me suivre sur ma cavale et de faire tout ça, voilà. Ouais, c'est attrape-moi si tu peux.
Ouais. Et le média, alors, il n'est pas venu?
Si, il est venu 2 fois, et puis après...
Non, mais sur la fin, enfin.
Pas sur la fin, c'est qu'après, les avocats, ils m'ont dit, Marco, si tu fais montrer tout ça, c'est que tu te fous de la gueule de la justice et tu vas prendre plus cher. Donc, il y a des vidéos qui ont été faites sur la cavale, et pour l'instant, j'attends de finir mes deux mises en examen que j'ai aujourd'hui, et après, une fois que je serai quitte avec la société, là, je pense que je pourrai tout sortir.
Vous savez faire de l'argent, on va dire entre guillemets, honnêtement, normalement.
Bien sûr, j'ai toujours eu. Pardon.
Oui.
J'ai toujours eu des structures propres, cachères, halal. Et j'ai toujours bien avancé, vous savez. Vous allez vous taper internet, Marco Mouli a lu deux boîtes cotées en bourse quand même. Sans lire, sans savoir lire, sans savoir écrire. Seulement faire du business.
Mais pourquoi vous n'avez pas appris à lire et à écrire? Vous auriez pu, finalement.
Parce que je pensais à gagner de l'argent et non pas à savoir écrire et lire. Vous savez, quand on a faim, il faut essayer de manger. Quand votre famille a faim, il faut essayer de manger. Donc j'ai pas pensé, j'ai préféré travailler directement.
Mais est-ce que ça veut dire que ça vous manque pas?
De quoi?
De savoir lire et écrire.
Bien sûr que ça a fauté, bien sûr que ça m'a mis des handicaps dans ma vie, énormément. Et après je me suis toujours posé la question, je dis bon, il y en a bien qui vont lire et écrire pour moi, quoi. Voilà.
Les gens prévisibles sont prévisibles, vous êtes par définition imprévisible. Comment est-ce que vous qualifiez votre intelligence?
Je ne sais pas si je suis...
Parce que vous avez une forme d'intelligence instinctive, en fait.
Vous savez, moi, je prends zéro rendez-vous dans ma vie, je ne sais pas. Je me lève le matin, je mets mon costume ou je mets un jogging et je me dis, après, je vois ce que j'ai à faire. Le plus important pour moi, c'est que je ne peux pas rester sans gagner de l'argent. Pourquoi? Ce n'est pas pour moi, l'argent. C'est pour les gens qui m'entourent. J'aurais appris un système... Enfin, si, c'est pour moi un petit peu, bien sûr, je veux pas être hypocrite.
Un petit peu, attendez. Vous montrez votre montre, là, la caméra.
Ah bon?
Montrez votre montre, là. C'est quoi comme montre?
Rolex.
Là, on est sur de l'or rose, hein.
Ouais?
Ouais, vas-y. Ouais. Combien? La montre.
Non, on s'en fout de ça.
Non, mais c'est pas vrai. Quand vous dites, j'aime pas l'argent, machin, bon, rien que la montre, je m'achète un studio à Paris, hein.
Non, mais attends, moi je gagne pas d'argent pour les cacher. Moi je gagne d'argent pour dépenser. Vous savez, encore une fois, je le répète, vous savez, une fois que vous êtes mort, le coffre ne suit pas le corbillard. Moi, je sais que dans le Coran, dans la Torah, dans ça, on vit dans une vie de matériel. Donc moi, on m'a appris ça. Donc il y a du matériel pour moi, donc je vis cette vie-là. Et après, on nous juge. Là-haut, donc pour moi, je fais ce qu'on me dit, j'écoute Dieu, dépenser, voilà.
Alors combien la montre?
Ouais, enfin, tout le monde sait.
Elle vient d'où? Ah non, personne ne sait, attends, moi j'ai des montres comme ça, j'en ai jamais acheté encore.
Enfin, elle vient d'où? On l'a acheté il y a longtemps, on l'a acheté.
Elle vient de Turquie?
Ouais, voilà, elle vient de Turquie.
Vous avez été condamné à rembourser 283 millions d'euros.
Ouais.
C'est ça.
Ouais.
C'est le montant de la TVA que vous avez encaissé pendant deux ans.
C'est le montant de la TVA.
2008 et 2009.
C'est non, ça. Non, pas pendant deux ans. Notre affaire a été faite en six mois. Ça n'a pas été ma plus lourde affaire en chiffres, parce que j'ai gagné beaucoup plus d'argent dans les autres affaires, mais ça a été la plus belle affaire en temps. En temps. En quatre mois, on a fait... bon, là, ils ont attrapé 1 milliard 600 millions, mais on a fait beaucoup. On a fait en espace de 4 mois. Ça, en réalité, tout a été fait en espace de 4 mois.
Donc, vous
le reste, c'était du juridique, de la stratégie, sortir l'argent, faire ci, faire ça. Ça a mis du temps.
D'accord. Mais alors, c'est 283 millions donc à rembourser. Vous vous êtes dit, je vais les rembourser.
Oui.
Donc, comment on fait pour faire 283 millions?
Comment on fait? Quand je l'ai dit, d'abord c'était pour motiver. Déjà c'était pour motiver, pour gagner beaucoup d'argent. Et là j'avance très très bien à l'étranger. J'avance très très bien dans mon boulot à l'étranger, non plus en France. Parce qu'en France je suis interdit de gérer et à l'étranger je suis pas interdit de gérer. Et le jour où je serai plus interdit de gérer, ben je ramènerai les affaires que j'ai fait à l'étranger pour les ramener en France. Pour payer mes impôts en France, et puis là j'ai remboursé entre ce qu'on m'a pris, ce que j'ai payé, ça fait un calcul entre le ministère des Finances, mes avocats et tout ça, on a calculé 87 millions d'euros, donc il me reste à peu près...
Que vous avez déjà remboursé?
Payé. Voilà, par exemple, je vous dis, moi j'ai compté, par exemple, la maison qu'on m'a pris, qui est passée sur le Parisien, ils l'ont vendue 5,3 millions, moi je l'ai payé 18 millions. Donc moi je l'ai estimé à 18 millions, je vois pas comment on peut vendre ça à 5,3 millions. C'est pas possible, c'est impossible. Donc voilà, je suis pas le seul à pouvoir me servir, là. Si vous estimez la maison devant la Tour Eiffel et vous la vendez 5,3 millions, c'est qu'il y a un problème. Où est le problème? Tout le monde a peur de s'attaquer à des murs en béton. Ben moi, non, la vérité, ça m'énerve. Ça m'énerve parce que j'aurais bien voulu la racheter à 5,3 millions. J'aurais fait encore une affaire. Mmh. Voilà, donc c'est ça qu'il faut comprendre.
Ils sont où les gens qui, comme vous, ont fait du CO2?
par exemple. Parler de mes amis.
Ouais, je sais pas. Ils sont partis où?
Je ne sais pas, j'ai plus de contact et puis je préfère rester dans mon image que de parler des autres. Vous savez, ils sont là pour parler d'eux et puis s'ils ont envie de parler d'eux, ils en parlent. Vous savez, ça me concerne tout ce que je dis. J'ai pas envie d'en parler.
Mais il y a que vous qui avez payé ou
pour l'instant, je suis caution solidaire avec tout le monde, mais je pense qu'il y a que moi qui travaille là.
Voilà. Donc il y en a qui sont au soleil.
Ouais, à mon avis, qui sont en cavale et qui veulent pas revenir. Et puis quand tu es en cavale, et ben le problème que t'as, c'est que t'es dans une prison dorée. Aujourd'hui, je suis content de ma situation et d'avoir payé ma dette. Voilà.
Pourquoi vous n'êtes pas parti au Panama avec votre argent, avec votre magot au soleil?
Ça sert à quoi? Ça sert à quoi? Ça sert à rien, vous savez.
Mais est-ce que vous y avez pensé, ça?
Non, j'y ai pas pensé. J'ai pensé à me sauver dans un pays, c'est vrai. Et après, je me dis à quoi ça sert? Tu prends pas tes responsabilités. T'es une mauvaise foi. Tu es un flipper. D'être un homme, c'est de prendre ses responsabilités. C'est pas, vous savez, vous pouvez pas frimer dans la vie et puis pisser dans votre froc. Ça sert à rien. Quand un mec il frime, il faut qu'il aille jusqu'au bout et il est victime encore une fois de sa frime. Vous savez, moi je suis vraiment victime de ma frime. Quand on m'appelle Marco l'élégant, je suis tous les jours, j'ai pas le droit de remettre les mêmes fringues tous les jours. Donc parce qu'on peut me voir dans les mêmes fringues du jour au lendemain, on peut me dire tiens, il a remis tout le mois, il met les mêmes fringues.
Surtout que comme parfois vous mettez des fringues qui sont un peu voyants, on remarque tout de suite que vous les avez mis la veille.
Oui. Donc c'est pour ça que
là vous êtes sobre aujourd'hui.
Ouais, ça va. Non, ça va.
C'est bien.
Ouais, je prends l'avion. Je prends l'avion dans une heure, là, je suis content.
À part la montre qui fait un petit peu habillé.
Ouais. Elle fait un billet. Non, ça va avec. Enfin, pour moi, toutes les guirlandes sont belles. À n'importe quelle couleur, du moment qu'on les habille.
Mais vous avez pensé quand même vous refaire dans un pays et vous installer là-bas. Ça, c'est dans votre cavale, ça faisait partie du plan.
Ça faisait partie du plan. Et puis, dans ma cavale, j'ai choisi le pays où j'allais aller. Vous savez, on m'a demandé s'il restait de l'argent. S'il me restait de l'argent.
Ben oui.
Dans 14...
Combien vous avez ouvert de comptes à l'étranger, dites-moi?
Une trentaine.
D'accord.
Dans à peu près 14 pays. Donc comprenez la cavale où elle est l'argent. On ne peut pas faire de cavale sans argent. Et comprenez. Voilà. Il y a des affaires, il y a des choses qui sont en train de se faire. Et puis bon, il y a un moment où l'argent va m'appartenir.
Donc ça veut dire qu'il reste des comptes où il y a encore un peu de sous.
Ouais, mais le problème c'est que je ne sais pas où.
Vous racontez que alors dans votre cavale, vous avez besoin de sous parce que quand même vous dépensez un petit peu, c'est que du cash, hein. Il y a pas la carte bleue à ce moment-là. Vous allez à Chypre, à la banque.
Oh, ouais.
Vous sortez tous les noms qui vous viennent par la tête. On vous reconnaît pas et le directeur vous reconnaît lui. Et là, il vous explique que ça a été fermé.
Ah, j'allais mourir. Ouais. J'allais mourir. Il y a deux pays où ils m'ont fait mal. À Chypre, mais à Chypre, le problème, c'est à l'époque du carbone, je sais pas si vous en souvenez, ils ont bloqué tous les comptes du carbone. Et à la fin, ils nous ont dit, voilà, on prend 50%, vous prenez 50%. Chypre a fait le carbone aussi, parce qu'ils se sont régalés à la fin. Mais en réalité, tout le monde s'est régalé, les avocats, la justice, tout le monde s'est régalé. La CARP, tout le monde s'est régalé, voilà, tout le
monde.
Alors
Chypre, et puis le deuxième pays, c'est
quoi ? Le deuxième pays, je le dirai pas, parce que je l'aime, ce pays. Et je l'aime tellement que je veux pas parler de mal, mais un jour j'ai été dans un pays où il me restait 4 millions d'euros. Je les avais bien cachés. Puis à la fin, ils m'ont dit, le directeur, il est venu et il m'a dit, monsieur Mollet, ou vous me donnez la moitié ou je bloque tout. Je lui ai dit, pourquoi ça vous a... Il m'a dit, même à toi, ça t'appartient pas, ça appartient à l'État français. J'ai dit, moi, je donne rien. Ils m'ont dit, eh ben, ok, on les rend. Et je ne sais pas si on les a rendus ou si on est toujours dans le compte. Voilà. C'est Genève aussi a rendu l'argent. Genève, il y avait à peu près beaucoup d'argent et ils les ont rendus et j'ai essayé de les récupérer par une autre forme et j'ai pas réussi, donc ils ont rendu. Voilà, vous savez, l'État est très fort. Ils ont des outils, oh là là, ils ont des outils que vous avez pas et puis en plus la justice française ou comme Europe, ils ont le temps. Nous, on n'a pas le temps, on est nerveux. Eux, ils ont le temps. Parce qu'ils m'ont fait un vrai coup de vis quand ils m'ont arrêté. Parce qu'au début, je savais que j'allais me faire arrêter, donc j'avais caché l'argent, j'étais pas en train de dépenser. Et ils m'ont laissé 5 ans pour savoir où était l'OJ, donc ils l'ont trouvé. Voilà.
Vous avez une punchline dans le livre, c'est la justice, c'est comme ta femme, elle peut te ressortir des dossiers vieux de 15 ans.
Ah ça c'est vrai, même vieux de 30 ans, elle te lâche pas. Il n'y a pas de prescription dans la vie. Les gens qui croient que la prescription ça n'existe pas, parce que la justice, par exemple, c'est 5 ans en correctionnel, qu'est-ce qu'ils font? Ils mettent un acte dans le dossier et ça repart pour 5 ans. Quand ils vous ont dans le collimateur, c'est fini, vous êtes mort. Vous êtes, ils vous ont, ils sont trop forts, ils sont d'abord des milliers de personnes. Ils ont les moyens de l'argent du peuple, et non pas leur argent, donc ils s'en foutent d'en dépenser, et vous, vous êtes seul dans ce monde, donc, bah merci, je suis content d'être été recherché par Interpol en liste rouge, et puis d'être attrapé en 6 mois, et d'avoir fait tous ces pays, et puis je vais vous dire, ma cavale, ça a été mes plus belles vacances, mais vraiment mes plus belles vacances, vraiment, 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 vraiment.
Ah, surtout à Mykonos, on a des images.
Ouais, Mykonos, ça a été, waouh.
Vous dites qu'il y a quelqu'un de haut placé qui vous en voulait.
Ouais. Enfin, il y a plusieurs personnes.
Mais vous donnez pas de nom. Vous savez qui c'est?
Ben, vous savez, je donne pas de nom parce que j'ai aussi, je sais pas si vous en rappelez, j'ai eu une affaire avec Trotskan. Vous en rappelez, non? Non. J'ai eu une affaire qui a été mise en justice avec Trotskan. J'ai fait du business avec lui. Je fais du business avec beaucoup d'hommes politiques.
Parce qu'il y avait un cabinet de conseil.
C'est là où il y a l'oseille. Et le problème de donner des noms, on ne sait pas si ça se retourne contre vous, je ne sais pas si ça fait balance, mais je préfère rien dire parce que entre le mot balance et balancer les gens, ça ne m'intéresse pas. Ouais. J'ai fait des choses avec
vous. Vous préférez balancer dans le poste? Alors je fais ça, c'est parce qu'il y a la pub en fait.
Ah d'accord, tu me
Marco Mouli est notre invité jusqu'à 13h.
Le Book Club revient dans un instant. Midi 13h, le Book Club avec Philippe Robichon sur Beurre FM.
Voilà, Marco Mouli, notre invité, tu as montré votre livre.
Ouais.
Marco, qui vient de sortir à la caméra, l'émission est filmée, ça s'appelle La Cavale chez HarperCollins. C'est quoi la différence entre une évasion et une cavale?
Ouah, non, évasion, c'est beaucoup plus dangereux parce que une évasion, vous sauvez, donc la justice sait que vous êtes sauvé, donc ça paye.
Mais vous êtes sauvé.
Mais non, une cavale. Le jour où on m'a dit, vous êtes parti en cavale, vous n'êtes pas rendu, vous n'avez pas été en prison, je leur ai dit, mais je savais pas que j'allais être en prison. Vous savez, après, il y a que des mots. Que ça soit du mensonge ou que ça soit de la réalité, du moment, encore une fois, que vous êtes sûr de vous, le juge, à la fin, il vous dit, bon, allez, arrêtez de m'emmerder, allez, en prison. On vous en parle plus. Ça veut dire que c'est différent, c'est complètement différent. Une cavale et une évasion, c'est quelque chose. D'abord, il faut avoir une paire de couilles pour s'évader, ou de l'inconscience, je sais pas. Mais, la cavale, j'ai voulu la faire beaucoup plus comme un, je sais pas comment vous expliquer,
un voyage de noces?
Non, un gentleman farmer.
Il y a une expression qui vient dans votre livre, c'est bien fait pour le juge, il a pas voulu attendre septembre.
Ben oui. Ben, vous savez, je lui ai demandé, il me donne le verdict le 7 juillet. Mais pourquoi cette méchanceté? On parle de 2 mois de vacances. On parle de 2 mois, ça ne veut pas dire que j'aurais pas fait la cavale peut-être au mois de septembre. Hein. Mais il m'a dit non. Mais d'une façon, non. Alors je lui ai dit, ben, j'irai pas en prison. Voilà, j'irai en vacances. Eh ben j'y étais, il n'a pas à décider ce qu'il va faire de sa vie, lui. Et lui, il se lève, le président, il vient. S'il est bien avec sa femme la nuit, tout va bien se passer le lendemain. Si sa femme, elle lui fait une réflexion, il va mettre sur ma gueule parce qu'il peut pas mettre sur sa femme. Donc je veux pas supporter les humeurs des gens. Voilà.
Ouais. Comment on fait pour faire le tour du monde sans passeport?
Je pense que ça a été la chose la plus facile. Parce que quand je dis facile à mon niveau. Ça veut dire quand, vous savez, quand vous êtes dans un pays, vous regardez les têtes des gens, il y en a beaucoup qui vous ressemblent. Donc de prendre leur passeport, c'est facile. Et puis quand vous allez...
Comment ça, de prendre leur passeport?
Bah, d'acheter leur passeport pour 24 heures.
Alors vous racontez que vous rencontrez un couple.
Ouais.
Hein, au restaurant.
Au restaurant, je pars, j'achète son passeport. J'ai laissé un ami à côté de lui et je me suis sauvé à l'aéroport, j'ai pris un billet, je suis reparti. Voilà, et je suis passé à la perfection.
Il a fait une petite couleur quand même avant.
Tout petite.
Aux cheveux, parce qu'il n'avait pas la même couleur de cheveux que vous.
Oui, mais tout passe, tout passe. Moi j'en suis sûr que vous me donnez quelqu'un de différent. Même si on me connaît, je vous défie que je passe une douane. Avec n'importe quel passeport. Moi, pour moi, les douanes, ils sont tellement débordés, qu'ils n'arrivent pas à voir les choses. Voilà. Moi, je pense que...
Vous faites diversion toujours, hein, pour ouais. passer les frontières. Il y a toujours un gamin qui braille, il y a toujours... Enfin, voilà.
Ouais, j'ai pris une personne âgée, j'ai un peu poussé la poussette et...
Voilà. Mais il y a toujours des trucs. Vous dites que les plus grands tricheurs se cachent au premier rang. C'est peut-être aussi ça dans la vie.
Les plus grands tricheurs, les plus grands bluffeurs sont au premier rang parce qu'ils veulent avoir le, ils veulent être vus, ils veulent voir qu'est-ce qui se passe autour d'eux. Et pour moi, c'est les plus grands tricheurs et bluffeurs du monde. Ça veut dire, vous savez, on réussit pas sans problème. Quand vous prenez le 440, vous savez, il y a trois catégories de personnes. Il y a le faiseur, il y a celui-là qui est né avec une cuillère en argent, et il y a celui-là qui a réussi un coup et qui va perdre son argent toute sa vie parce qu'il croit qu'il est malin. Mais non. Moi, j'aime les faiseurs d'argent parce qu'on croit toujours qu'on va se refaire. Et on se refait. Mais un cuillère en argent, donc il est là, ses parents lui a donné, et puis toute sa vie va perdre l'argent de ses parents. Et puis un mec qui a monté une affaire, et ben il a vendu son affaire 500 millions d'euros, et à la fin de sa vie, il croit tellement faire des belles affaires, il va lui rester 20 millions d'euros. Voilà. Et mais un faiseur, il se retourne tout le temps. Pourquoi? C'est parce qu'il est toujours à la ramasse des affaires. Il va toujours chercher ses affaires. Dans n'importe quel métier.
Mais moi, c'est l'idée. C'est quand tu sais gagner de l'argent, il faut savoir en perdre.
Ah mais ça c'est sûr et certain. Si tu sais pas perdre, tu sais pas gagner, c'est pas possible. Moi il m'est arrivé où j'étais voir des banquiers, j'ai donné des 50 000 euros dans le vent. Ça veut dire qu'à la fin j'ai rappelé le lendemain, je lui ai dit mais alors on se voit, il m'a dit non pas du tout. Et il a dépensé mes 50 000. Donc voilà, il faut savoir. Et puis il y en a où ça a marché, où j'ai pris des 25 millions, 30 millions. Et puis il y a un article dans le Parisien qui est réel, une banque que j'ai rencontrée.
Celui-là il est réel hein.
Non, réel, ça veut dire dans le papier.
Ah oui.
Quand je dis réel, c'est dans le papier. Ça veut dire, vous savez, quand vous dites des choses et il n'y a pas de preuves, ça peut, on peut raconter des belles histoires. Ça devient des histoires. Quand je vous dis, celui-là est dans le papier parce que il y a une mise en examen dessus. Il y a une banque que j'ai fréquentée, un président de banque très important. On s'est fait arrêter, hein, de toute façon. Hein. Je lui ai pris 35 millions d'euros, mais parce que je lui ai vendu quelque chose qui n'existe pas dans ce monde. Et lui, il y a cru, j'y ai cru. Même moi, à la fin, je croyais que j'avais le produit. Même moi, je voulais plus le vendre. Voilà, c'est ça, c'est de croire ce que tu fais. Voilà, que tu mens, que tu mens pas, c'est de croire ce que tu fais.
Voilà, faut commencer par ça.
Voilà.
Et si t'y crois?
Eh ben, tout le monde y croit.
Fake it until you make it.
Wow.
C'est... Invente-le, fais semblant jusqu'à ce que tu...
Ben oui, quoi
qu'il arrive. C'est
la base. Ben oui, ça c'est sûr. Il y a des personnes qui ne savent pas bluffer et je crois que l'envable, c'est la chose la plus belle au monde.
Chez vous, et c'est peut-être là votre force et votre talent, c'est que l'arnaque est passée derrière votre personnage. Comment est-ce que vous avez réussi ce tour de force?
Ben, moi, je pense que j'ai pas réussi de tour de force. Je pense que j'ai fait montrer qui j'étais, comment je faisais et les gens ont aimé le personnage, peut-être plutôt, ouais, parce que pour moi, j'ai pas fait d'arnaque. Vous savez, quand vous parlez des gilets jaunes qui descendent dans la rue, où ils sont et tout ça, et puis il y a beaucoup de gens qui se disent dans leur tête, putain, je suis pas capable de le faire, mais je suis content qu'il le fait. Voilà, et ils se mettent derrière moi, en vérité, pour me soutenir. Vous savez, quand je vois mes textos, quand je vois les gens qui m'appellent, quand je vois les gens qui laissent des messages... Mais d'amour, mais de folie. Même moi, il y a des fois où je comprends pas. Tellement qu'on me donne, tellement qu'on me pousse, vous en rendez compte que je suis en train de réfléchir peut-être pour faire un autre coup. C'est le truc, l'amour des gens te font faire n'importe quoi.
Ouais, mais enfin, faut expliquer que derrière chaque connerie que vous dites, il y a une part de vérité.
Toujours il y a une part de vérité. Quoi qu'il arrive, sinon c'est pas une connerie. Ou sinon, vous ne pouvez pas l'inventer. Il faut toujours... Vous savez, quand vous dites quelque chose qui est trop dangereux et qui est trop dur, il faut savoir rebondir là-dessus.
Après, vos communicants vont ramener dire ça. Tu peux plus le dire, ça, dans les émissions.
Non, mais je peux plus le dire ou pas le dire. Vous savez, je dis ce que j'ai envie de dire. Vous savez, mes communicants, comme la personne qui est en face de moi, c'est un charmant garçon. Il surveille faits et gestes. Mais il y a un moment où je vais me sauver dans un autre pays pour parler de tout, quoi.
Vous dites que la bif est le moine en prison. Chez vous, cet amour de la sape, elle vient d'où?
Mais c'est énorme, c'est important. Déjà, quand vous vous sapez, vous vous respectez. Déjà, on s'en fout du prix, hein. Vous pouvez aller dans n'importe quoi, c'est le goût qui est important. Vous vous respectez. Et puis en plus, l'autre personne qui est en face de vous, vous mettez à l'aise, vous vous sentez bien, même si vous n'avez pas d'argent, pour vous, vous êtes le meilleur, vous êtes mieux que l'autre. Donc à la fin, c'est un respect pour les deux, c'est un respect pour le monde. Et puis les gens, tu sais, tu veux réussir dans la vie, n'essaye pas de te comprendre parce que tu te connais. Essaye de comprendre les gens et là, tu vas réussir. Parce qu'une fois que tu les as compris, tu t'es compris. Voilà.
Ouais, mais vous dites dans le livre qu'en fait, vous vous mentez à vous-même.
C'est-à-dire oui.
C'est-à-dire que comment vous vous mentez?
Par exemple, voilà. Par exemple, là, je sais que l'avion est complet et je m'en vais quelque part. J'en suis sûr et certain que je vais avoir un billet et prendre un business. Voilà, au même prix, à la main. Je sais pourquoi, parce que je vais aller devant le kiosque et je vais dire bonjour madame, je ne comprends pas. Et ça s'est toujours fait. Je dis bonjour madame, je comprends pas. J'ai reçu mon billet, j'étais au 2B et là on m'a changé au 38. Je ne comprends pas, je ne supporte pas l'avion, je ne peux pas monter. Il va falloir que vous faites quelque chose pour le port. Mais la chose est tellement vraie qu'à la fin il dit attendez, calmez-vous, on va vous le faire. Et il tape à l'ordinateur et il me sort un billet 2B. Voilà, il faut, vous savez, il faut oser. Il faut oser dans la vie. Ça se passe à la perfection, ça se passe très bien. Vous savez, quand je vais quelque part, je dis, putain, mon père, il est mort, j'en peux plus, je suis en train de pleurer, tout ça. Mais mon père est mort depuis 10 ans, donc il est vraiment mort, j'ai pas menti. Sauf, je le dis, il est mort aujourd'hui, c'est tout. Le thème, il faut servir des histoires pour en faire une histoire. Vous pouvez pas raconter une histoire qui n'existe pas.
Les histoires n'arrivent qu'à ceux qui savent les raconter, disait Chirac, c'est un peu votre cas.
Il y en a qui font l'histoire et il y en a qui la racontent. Après, les gens la racontent à leur manière. Et puis, il y a des fois qui la racontent un peu mieux que moi. Moi, c'est la réalité. Puis, il y en a qui mettent un peu de piment et un peu de pommade dessus.
Bon. Quel rapport vous avez avec la culpabilité? Est-ce que c'est quelque chose qui vous traverse ou pas?
Je ne connais pas ce mot-là.
Jamais?
Je ne connais pas, j'ai jamais réfléchi.
Pas en amour, pas...
Si! Si, ça, je m'en veux. Si, je m'en veux. Mais après, vous savez, quand une femme vous aime, elle sera toujours là. Quoi qu'il arrive, l'amour est plus fort que le respect, que l'être humain, que tout.
Vous avez la même femme depuis...
Ouais, j'ai la même femme depuis 30 piges.
30 piges.
Ouais.
Vous l'avez rencontrée où?
À Belleville. Ils étaient trois copines et on était trois amis.
Et vous étiez le plus beau gosse?
Non, vraiment pas. Non. À l'époque, quand j'étais jeune, j'étais boucher. Donc un boucher, il mange beaucoup. Il est grossi. Il a plus de dents. Non. J'étais mignon. Mais par exemple, j'ai une photo là où j'avais 14 ans. Je ne l'ai remarqué. J'étais déjà en costume, cravate. Je savais même pas. Je m'en rappelais même plus. Vous voulez la voir?
Ouais.
Allez.
Montrez-la sur le. Ça passe pas à la radio, hein.
Non,
Marco.
Ça va pas passer à la radio, mais ça va passer à la caméra.
Ça va passer à la caméra.
Et voilà. Et je savais pas que j'étais en costume comme ça.
Fais voir.
Voilà. Deux minutes, ça arrive.
On peut parler. Mais sinon, la culpabilité pour ce que vous avez fait, sur le CO2, non.
Non, parce que j'ai payé. Pourquoi voulez-vous que je sois coupable? J'ai fait 7 ans de ma vie. J'ai perdu énormément avec les 7 ans que j'étais pas là.
Répondez-moi en regardant la photo.
Pardon, désolé. Ouais. Et puis, il y a une chose que je veux vous dire. Vous savez, moi, j'étais à la mairie, là. Ils m'ont enlevé 7 ans de ma vie. Je leur ai dit, est-ce que vous pouvez me les enlever de mon passeport? J'ai pas envie de vieillir de plus que 7 ans parce que j'ai pas vécu là-dessus. Donc, et puis voilà. Donc, il y a pas.
Mais est-ce qu'on peut acheter du temps?
Non. Non. C'est la seule chose qu'on peut pas acheter. Non.
Même avec beaucoup d'argent? Ah ouais. C'est blanc, mais c'est habillé.
Costume, ouais. Je sais pas, chemise en soie. Pas mal quand même à mon âge.
Ah ouais. Monde, valide. Je sais pas si tu valides le look.
Tiens, on va voir Voilà, le... Bah, le look, il a 30 piges, hein.
Oh, c'est bien.
Ouais.
C'est bien. Après, ouais, c'est satiné un peu.
Non, mais à l'époque, c'était ça. À l'époque des années 75.
Ça. Ah, pour 75, c'est parfait.
Bah oui, c'est l'époque.
C'est sobre.
Voilà, c'est l'époque. On était playboy à cette époque. Ça va.
Pourquoi les médias vous aiment tant? Par exemple, hier soir, Léa Salamé vous a invité pour la première émission. Pour la première émission, on envoie du lourd en général. On n'envoie que les bons clients. Vous comprenez un petit peu cet engouement des médias pour vous? C'est parce que vous êtes un bon client?
Je suis un bon client, ouais. Pour eux, je sais que je fais du buzz, je sais que je fais de l'audience. Comme vous, vous m'avez invité pourquoi? Pour les deux, pour mon histoire et de l'audience un petit peu, non?
Ah bah tiens.
On va pas se cacher la vérité.
Lundi, je vais regarder les chiffres, je vais dire Marco, il m'a fait mon dimanche.
Voilà, donc, non, parce que je dis la vérité, puis quand je parle, je suis sincère, vous savez, j'ai été chez Léa Salamé, moi j'ai connu cette femme-là, c'est la plus belle personne du monde, mais les gens qui l'entourent ne vaut rien. De Chavannes veut lui prendre sa place. C'est un monde qui est horrible.
Ouais, mais vous avez quand même bien sympathisé avec Jean-Luc hier.
Jean-Luc Mélenchon?
Ouais.
c'est une... Alors, je suis arrivé, on s'est rencontrés dans le couloir, et il a dit à son staff et à Léa Salamé, je ne vais pas dans le plateau avec Mouly. Ça, j'ai été tellement fier de moi, qu'un mec comme ça, qui a du pouvoir, et qui se dit, je ne veux pas affronter Marco Mouly, ça, c'est beau. Ça, pour moi, dans les annales, ça restera. J'allais combattre contre avoir un débat avec Mélenchon, et Mélenchon a pris le... Comment il dit, Macron
la poudre d'escampette.
La poudre d'escampette, voilà. Voilà, moi, Mélenchon, s'il m'écoute, hein, bien entendu, s'il m'écoute...
Il écoute, enfin, en tout cas, il y a un de ses amis qui écoute, là. Qui
alors,
pas,
ok,
qui
pas s'il loin, m'écoute, ouais. Mélenchon, n'aie pas peur de moi. Moi, la seule différence, je dis tout ce qui passe dans le cœur. Toi, t'es un menteur. Toi, tu dis aux gens, les pauvres, mais tu vis avec une vie de milliardaire. Toi, tu dis l'environnement, mais tu roules avec des voitures à essence. Tout ce que tu dis, tu donnes jamais de preuve d'amour. De dire je t'aime, c'est facile, Mélenchon. Mélenchon, quand tu veux le débat, je serai là.
Oh bah, sur leur FM, nous, on vous accueille. Hein. Je paierai même un café à tout le monde. Hein. Pour vous
c'est
dire,
gentil.
Et royal.
C'est gentil.
Ouais, en tout cas, le message est passé.
Ouais, surtout passe-le, parce que de dire à Léa Salamé, je ne veux pas de Marco Mouly quand je suis dans le plateau, c'est qu'en vérité, t'as peur. T'as peur.
Et comment voilà. Ils ont fait? Ils ont changé le programme, parce qu'en et général,
ben,
c'est
ils bien. Ils ont changé le programme. Je devais être dans le plateau, dans l'émission, et puis bon, il a dit. Puis j'ai vu quelque chose, j'ai remarqué, c'est qu'il n'y avait qu'une seule entrée, une seule sortie, et ils ont inventé une nouvelle sortie pour Mélenchon. Donc on s'est pas croisé. Et puis la loge, il l'a changée parce qu'elle était à côté de moi. Et puis bon, tu veux que je dise, Mélenchon, c'est facile, tu cries tout le temps. Viens discuter. Voilà.
Bien, alors après le livre, vous allez faire un film?
Ouais, ça va être adapté dans un film, j'ai pas le droit d'en parler parce que le boss, il est là. Ouais, alors bon. HarperCollins, c'est là.
Il faut vendre les droits d'abord.
Et ils sont, moi, pour moi, ils sont déjà vendus et j'ai pas le droit d'en parler à qui, à des plateformes, quelles plateformes. Mais déjà, le livre est tellement magnifique et tellement beau et...
Tiens, faut le remontrer.
Ouais,
La cavale, donc c'est l'histoire de votre cavale. En bateau.
Hein. Bateau, avion, enfin de tout, dans tout. Et puis j'étais pas tout seul.
Oui, parce que alors vous aviez embarqué Gypsy au début, et puis après vous avez pris votre poteau là.
Ouais, j'ai
celui qui ronfle.
Ouais, énorme. J'ai pris du plaisir qui est énorme dans cette cavale. Mais le plus important, que je m'en rappelle, c'est l'émotion et les pleurs que j'ai eus. J'ai rarement pleuré dans ma vie, mais quand tu pleures, qu'est-ce que ça fait du bien.
Vous avez eu une larme.
Ouais. Ça fait du bien. C'est énorme.
Marco Mouly sur Beurre FM. Vous réécouterez cette émission en podcast sur beurrefm.net.
C'est gentil.
La vidéo et le look de 14 ans de Marco Mouly. C'est
bravo.
Merci d'avoir été avec nous et passez un bon dimanche.
C'est moi qui vous remercie. Merci beaucoup en tous les cas.